Bonjour Janine, que Dieu vous bénisse, content de vous avoir avec nous ce matin. Bonjour Jean-Gilbert, bonjour Rosanie, bonjour Immaculée. Nous sommes le mardi 1er février 2022. Il fait un peu frais ce matin, mais ça se réchauffe. Puisque demain et jeudi surtout, on attend de la neige, donc le temps se réchauffe un peu. Si vous ne voulez pas de neige, ça prend du froid. Bonjour à mon père, ma mère, bien entendu. Marie-Huguette, bonjour. Vous avez encore un bon 7 minutes environ pour aller vous chercher un thé ou un café. Pas au coin de la rue, bien entendu, là, mais dans la cuisine. Ben, remarquez que si vous habitez juste à côté d'un Starbucks, c'est peut-être le temps, mais bon. Merci Marie-Huguette. Merci Janine. Bonjour à ma tante Vivi. Bonjour Tati, j'espère que tu vas bien. Actuellement, il fait moins 15 degrés à l'extérieur. Pompée, ce matin, c'était un peu froid, mais en rentrant du travail de Daphné, après l'avoir amené au travail, donc il fallait que je passe Pompée. J'en ai profité pour laver la voiture avec la gadoue qu'on a eue à travers les derniers jours ou les dernières semaines. La voiture était inapte au regard. Donc là, elle est toute propre. J'en suis bien content. J'aime pas ma voiture quand elle est sale. Donc j'ai toujours en réserve quelques passages au car wash. Bonjour Bernadette. Bonjour Thérèse. Sois bénie. Bonjour Marie-Marthe. Et si Marjolaine est à tes côtés, nous la saluons chaleureusement aussi. Alors, comme hier et comme demain, deux rendez-vous aujourd'hui. Donc, ce matin, vous êtes déjà connectés pour la bénédiction matinale, mais ce soir, le pasteur André vous retrouve pour le cours sur les fondements chrétiens, sur les bases de la foi chrétienne. Donc, c'est à 19h. Merci, Guy. Sois béni, toi aussi, en ce début de mois. Et oui, déjà un mois de passé dans l'année 2022. Ça passe très vite. En même temps, ce mois de janvier a passé très lentement puisque j'étais pratiquement tout le mois en confinement, mais bonjour à ma belle-mère, que Dieu vous bénisse. Méreste, bonjour, très content de t'avoir avec nous ce matin. Je pensais à toi il y a 4 ou 5 minutes, juste avant de me connecter. Je lisais un article intéressant que je partagerai avec toi tout à l'heure sur les similitudes entre la COVID et puis d'autres maladies, une autre en particulier, et l'attaque aux cellules. Donc je t'enverrai le texte tout à l'heure, je trouvais ça intéressant. Bonjour Rachel, bonjour aux sœurs qui sont avec toi, Chantal, Ocilia, Mona, bonjour. Bonjour Pascal, bien heureux de vous avoir avec nous ce matin, certainement que vous êtes en route vers le travail, soyez prudente sur la route. Bonjour Lucie. Saluez Lynn de notre part, que Dieu vous bénisse. Hermana Maggie, que Dios la bendiga. Bienvenue parmi nous, content de vous avoir avec nous. Salutations à Eduardo. Encore 2 ou 3 minutes. Alors, si vous voulez ouvrir vos Bibles, c'est dans, bien sûr, Matthieu 28. Matthieu 28, c'est du verset 5 au verset 10 que nous étudions cette semaine. Hier, on a étudié le verset 5. J'avais dit qu'aujourd'hui, ça serait le verset 6 et 7. Mais en fait, ça va être juste le verset 6 aujourd'hui. Good morning, Sylvia. God bless you. Happy to have you with us this morning. Bonjour Francine, que Dieu vous bénisse, bienvenue parmi nous. Pastor David, good morning, God bless. So prepare your shovel, because there's snow on Wednesday, a little bit on Wednesday, a bit more on Thursday. So it'll be a little bit hotter outside also. Hermana Susana, que Dios me la bendiga. A usted y a su esposo también. Tati, nous prierons pour toi. Effectivement, on te souhaite que ce ne soit pas la COVID, mais simplement un petit rhume. Babette, bonjour. Salutations à Andreas. Alors, prions et on débute ce matin. Merci Seigneur encore pour cette belle journée qui débute. Ici à Montréal, sous le soleil un peu frais, mais une belle journée, surtout une journée que nous savons prévue par toi, pensée par toi et sous ton autorité et ta grâce. Alors, nous ne pouvons qu'espérer que tu sois avec nous tout au long de cette journée, comme tu le promets. Nous avons cette assurance que tu nous conduiras dans différentes activités, dans différentes tâches que tu veux que nous puissions effectuer pour l'avancement de ton royaume. Mais ce matin, on prend un temps pour étudier ta parole, pour plonger nos regards dans les saintes écritures, afin que celles-ci abreuvent notre âme, nourrissent notre esprit et qu'elles puissent transformer, métamorphoser notre être, afin que quoi que nous fassions, quoi que nous disions, nous puissions être en accord avec ta pleine parole, ta pleine volonté. Alors Seigneur, bénis-nous, accorde-nous entendement, accorde-nous connaissance, accorde-nous compréhension et daigne Seigneur nous utiliser pour ta gloire. Nous t'avons prié dans le précieux et glorieux nom de Jésus. Amen. Alors encore une fois, bienvenue en ce mardi 1er février 2022. Déjà un mois d'accompli dans cette année 2022, ça passe tellement vite. Il nous reste 11 mois dans cette année pour faire ce que Dieu voulait que nous fassions durant cette année 2022. Et ce matin, une des choses qu'il veut qu'on fasse, c'est étudier sa parole. Alors, je vais lire pour vous le passage qui nous sert de réflexion, particulièrement cette semaine. Vous savez qu'on est en préparation de la thématique 2022 que j'aurai l'occasion de partager avec vous le dimanche 13 février, premier dimanche où on revient en présentiel. Donc, ce sera à cette occasion qu'on aura la joie de partager avec vous la thématique pour l'année 2022. D'ici là, on prépare nos cœurs, on prépare notre disposition, on va dire, à recevoir ce défi et cette thématique pour l'année 2022. Alors, je lis pour vous le texte dans Matthieu chapitre 28, les versets 5 à 10, et je relirai par la suite le verset 6 qui nous sert donc de réflexion ce matin. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre, avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et leur dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds, et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Et je relis pour vous le verset 6. « Il n'est point ici. Il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. » Simplement pour rappeler le contexte de cette parole, c'est une rencontre entre un ange et Marie de Magdala et une autre Marie qui se présente au tombeau où Jésus a été enseveli il y a déjà 3 jours. Donc elle se présente au matin de la résurrection. Et la Bible nous dit qu'un ange est descendu du ciel avec grand éclat et accompagné d'un tremblement de terre, il a roulé la pierre. Et les gardes qui assuraient donc la vigile devant le tombeau où Jésus avait été enseveli vont se taper au sol par crainte, par terreur. Et l'ange va s'assurer de dire aux femmes de ne pas avoir peur parce qu'il sait qu'elles sont venues, parce qu'elles cherchaient Jésus. Tout au long de cette semaine, oui, on prépare la thématique de 2022 qui sera révélé dans quelques semaines, dans 2 dimanches, mais on est aussi en train de parler cette semaine spécifiquement de certaines caractéristiques de celui ou de celle qui cherche à voir Christ. Et assurément, si on est connecté ce matin et si on le fait si fidèlement lors de ces bénédictions matinales, c'est parce que nous avons effectivement envie, désir de voir Jésus actif, de voir Jésus en action dans notre vie, de le connaître davantage, d'être capable d'entendre sa voix, de percevoir sa voix, son cœur, ses désirs pour nous. Alors ce matin, il est intéressant, encore une fois, de s'arrêter pour voir certaines caractéristiques qui habitent ces deux femmes et qui devraient nous habiter à nous aussi. En fait, ce matin, on va parler d'un fondement capital de la foi chrétienne. Et je relis le verset et on rentre donc dans l'explication. « Il n'est point ici, » c'est l'ange qui parle aux femmes à propos de Jésus, et il dit, « Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. J'avais annoncé qu'on étudierait le verset 6 et le verset 7, mais lorsque je révisais mes notes hier et que je découpais un peu l'enseignement pour cette semaine, je me suis rendu compte que on ne peut pas mélanger ce verset avec le verset 7 parce qu'il est important de comprendre la primauté de la résurrection de Jésus dans nos vies et dans la doctrine chrétienne, dans la foi chrétienne. Je le rappelais dimanche, le pasteur Sergio a fait une prédication percutante il y a quelques mois où il nous expliquait que de parler strictement de la mort de Jésus, c'est faire la moitié du travail. La mort de Jésus sans la résurrection, elle est simplement la moitié de la tâche que Jésus venait faire ici-bas sur terre. Il est primordial, et l'Église primitive comprenait cela, il est primordial que l'Église embrasse cette doctrine de la résurrection des morts. En fait, on voit dans les premiers chapitres du livre des Actes, où on nous parle de l'histoire de l'Église primitive, des premiers croyants, des premiers frères et sœurs qui vont se rassembler, on voit qu'une des raisons pourquoi l'Église va être persécutée et pourquoi l'Église va être malmenée, c'est justement en raison de la doctrine de la résurrection des morts en la personne de Jésus. Lorsque les disciples ont commencé à prêcher que Jésus était effectivement mort et ressuscité des morts, c'est là qu'il y a eu un problème à l'égard de l'Église, ou c'est là qu'on a commencé à faire des problèmes. Mais pour l'Église primitive, pour les premiers croyants, pour les premiers frères et sœurs en la foi, c'était une évidence même qu'il fallait parler de la résurrection. Et ce matin, c'est ce que nous allons faire. On va diviser ce verset en quatre points importants. Quatre sections de phrases qui constituent donc ce verset. Premièrement, l'ange va dire « Il n'est point ici ». Il vient à la rencontre des femmes, sachant que les femmes viennent voir Jésus. On l'a expliqué hier, après trois jours, on revenait une ultime fois au tombeau pour embaumer le corps. En fait, Jésus va être enseveli dans le tombeau peu de temps avant que la Pâque ne commence, avant que le temps de sabbat ne commence le jeudi soir. Donc, Jésus, parce que c'était un double sabbat à l'occasion, donc Jésus va être enseveli, va être mis en terre, et là, ce qui se passe, c'est que le temps va s'écouler, temps dans lequel la tradition judaïque avait comme perception que quelqu'un qui était mort, mais qui n'avait pas encore dépassé trois jours mort, il avait son âme ou son esprit qui flottait quelque part autour de lui et qui avait encore la possibilité de réintégrer le corps. Voilà pourquoi Jésus va prendre soin de ne ressusciter qu'après trois jours, pour qu'on ne puisse pas dire qu'il n'était pas vraiment mort, qu'il n'était pas tout à fait mort, qu'il était tout simplement en attente. Jésus est réellement mort, on l'a réellement enseveli, et les femmes se sont pointées vers le tombeau, vers le lieu d'ensevelissement, et l'ange va leur dire « il n'est point ici ». En fait, ce que l'ange est en train de leur dire, c'est qu'il était là, mais il n'y est plus. Et c'est ça le message merveilleux de la résurrection. C'est qu'effectivement, Jésus est mort. Mais Jésus n'est plus dans le tombeau parce qu'il est ressuscité. Lorsque l'ange est en train de dire « il n'est point ici », alors que tous savent qu'autrefois ou précédemment Jésus y était réellement, l'ange est en train de dire « que Jésus a subi et porté tout ce qu'il devait subir et porter. Si Jésus n'avait pas été enseveli, si Jésus n'était pas mort, Jésus n'aurait donc pas accompli ce qu'il devait accomplir. Si Jésus, à la dernière seconde avant de rendre l'âme, alors qu'il est sur la croix et qu'il dit « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» et qu'il pousse un cri, si juste avant de mourir, il avait claqué les doigts, les anges des cieux seraient descendus, auraient pris soin de lui, auraient renversé ce qui se passait, mais les anges ne l'ont pas fait. Pourquoi? Parce que la parole nous dit que Dieu a même détourné son regard de Jésus, puisqu'il portait sur lui l'iniquité, les failles, les défaillances, les péchés de l'ensemble de la création. Et Dieu a donc détourné son regard de son Fils, Dieu fait homme, Jésus. Et à ce moment-là, il a effectivement porté ce qu'il devait porter, ton iniquité, mon iniquité. Il l'a porté complètement jusqu'au point où Jésus va dire avant de mourir, tout est accompli. Tout ce qu'il devait faire, il l'a fait. Donc lorsque l'ange est en train de dire que Jésus n'est point ici, il est en train de dire il était là, mais il n'y est plus. Jésus a fait ce qu'il devait faire. Jésus n'est pas mort à moitié. Jésus n'a pas payé le prix à moitié. Jésus a payé le prix complet qui se devait d'être payé pour permettre à un pécheur repentant d'être sauvé, de recevoir grâce, salut et vie éternelle. Alors, ce pourquoi on doit se réjouir ce matin, c'est effectivement que Jésus, en mourant, a tout accompli, a pleinement fait ce qui était nécessaire pour le salut de l'humanité. Certaines personnes voudraient contribuer à ce que Jésus a fait, en payant un certain prix par eux-mêmes, que ce soit par des abstinences, que ce soit par des sacrifices qu'ils font. Certains, notamment dans l'Église traditionnelle, ont développé une théorie, parce que ce n'est pas un point de foi, ce n'est pas un point biblique, qu'on appelle l'ascétisme. Et l'ascétisme, c'est qu'on le voit particulièrement dans certains films où on a présenté certains groupes de l'Église catholique, peut-être un peu plus obscurs. L'ascétisme, c'était cette pratique que certains avaient de s'auto-flageller, de se faire mal physiquement, avec la pensée que s'ils souffraient suffisamment, ils attireraient la grâce, le pardon et la bienveillance de Dieu. Dieu n'a pas besoin de ta souffrance pour te sauver. Jésus a payé au prix de sa mort, au prix de son corps pleinement, totalement, complètement déchiré et au prix de son sang pleinement et complètement versé et suffisamment versé, il a payé le prix pour chacun d'entre nous. Donc nous ne pouvons pas contribuer au sacrifice que Jésus a porté, que Jésus a accompli pour nous. Lorsque l'ange va dire « il n'est point ici », il est en train de dire ce qu'il devait y faire a été fait et maintenant il en est sorti. J'ai aussi lu une fois un livre de Max Lucado, un auteur assez connu dans la littérature chrétienne contemporaine. Dans un livre, je pense qu'il est un peu difficile à trouver maintenant en français, qui s'appelle 6 heures un vendredi. 6 heures un vendredi, où il parle des 6 heures où Jésus va être arrêté, jugé, crucifié et mis dans un tombeau. 6 heures un vendredi. Et à travers cette prédication, et là ça me fait dire que j'ai fait une erreur tout à l'heure, je vous ai dit qu'on prenait que Jésus était mort le jeudi soir. Non, on prend la Sainte Cène le jeudi soir, comme Jésus a mangé la Pâque le jeudi soir, mais Jésus est mort le vendredi. Excusez-moi du lapsus, je me reprends. Donc dans 6 heures un vendredi, Max Lucado va avoir cette phrase merveilleuse en disant « il n'est entré dans le tombeau que pour prouver qu'il pouvait en ressortir. Il n'est entré dans le tombeau que pour prouver qu'il avait la puissance pour en ressortir. » Voilà une des raisons pourquoi il a accepté la croix, pour montrer qu'il était effectivement tout-puissant et attester, apposer son sceau de toute-puissance contre la mort, contre le péché, contre la condamnation du péché qui pesait sur nos épaules. Donc, premier point, Jésus n'est point ici. Pourquoi? Il y était, mais il n'y est plus, parce qu'il a payé et il a subi et il a porté tout ce qu'il devait faire et maintenant, il en est sorti. La deuxième phrase, l'ange va dire, il n'est point ici, il est ressuscité. Il est ressuscité. Ça veut donc dire qu'il a vaincu la mort. Et il y a même un passage où on va dire qu'il est le premier de tous ceux qui ont ressuscité. Et parfois, les gens me disent, oui, mais Lazare a été ressuscité. Oui, mais il y a cet enfant qui était mort, que Jésus a ramené à la vie. On a dans l'Ancien Testament des prophètes qui vont ressusciter certaines personnes, le fils d'une dame qui ne pouvait enfanter et qui finalement, par la proclamation du prophète et par l'action de Dieu, elle va donner naissance et son enfant, quelques années plus tard, va venir à mourir. Et on voit le prophète qui va ramener cet enfant-là à la vie. Alors on nous dit, mais pourquoi on nous dit donc que Jésus est le premier ressuscité? Ben, Jésus est le premier ressuscité parce qu'il n'est jamais mort par la suite. Lazare a été ressuscité par Jésus, mais il est mort par la suite. La petite à qui Jésus a dit « Talita kumi », à l'enfant de se réveiller, la fille de Jaïrus, ben cet enfant-là était mort, était morte, elle est ressuscitée, et par la suite, elle a connu une autre fin. Elle est morte par la suite, la Bible ne nous dit pas comment, l'histoire ne nous dit pas comment, mais éventuellement, par vieillesse, par maladie, par accident ou par autre moyen, elle est décédée autrement. Mais Jésus est le seul qui est entré une fois dans le tombeau et qui n'y est plus jamais retourné. Et ce faisant, en ressuscitant, il était donc en train d'attester, en train d'apposer son sceau de victoire, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur la mort, sur le séjour des morts et sur le péché. Jésus a démontré une fois pour toute sa toute-puissance. Et pour toi et pour moi, ça doit être réjouissant. Ça veut dire que celui en qui nous avons cru, celui en qui nous croyons, a toute puissance sur toute chose, a la puissance même sur la mort. Ça veut donc dire qu'il n'y a rien qui ne peut résister, il n'y a rien qui ne peut s'opposer à notre Seigneur, à notre Roi, à notre Dieu, à Jésus. Il est vainqueur en toutes choses. Il est ressuscité, c'est donc dans cette doctrine de la résurrection, c'est ce moment où Jésus a posé son sceau de victoire sur la mort et sur le péché. Je vous rappellerai que la conséquence du péché, la conséquence du péché initial a été que l'homme qui était éternel jusqu'à ce moment-là est devenu mortel. À partir du moment où Adam et Ève ont mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le jugement de Dieu est tombé tel qu'il avait été annoncé, tel qu'il avait été édicté. Et dans ce jugement, non seulement y avait-il alors séparation entre l'homme et Dieu, séparation dans l'intimité, dans la communion qu'il y avait jusqu'à présent avec Dieu, mais de surcroît à cela, l'homme est aussi devenu mortel, avec un temps, avec une durée de vie qui était déterminée pour chacun d'entre nous. Et en devenant, en ressuscitant, Jésus va vaincre cette condamnation à mort, va vaincre la mort qui nous habite en tant que pécheurs et permettre aux pécheurs repentants de devenir immortels, de devenir éternels. Assurément, cette vie physique telle que nous la connaissons va terminer. Mais après ça, ce n'est plus une fin en soi, c'est le début de l'éternité que nous passerons avec ou sans Dieu, que nous passerons dans la présence ou exclus de la présence de Dieu. Lorsque Jésus est ressuscité, il a donc accompli de surcroît à tout cela l'accomplissement, c'est pas le complément, mais c'est la formule complète de ce qu'il devait accomplir. Jésus qui meurt, c'est Jésus qui paye pour le péché que nous avons commis. Jésus qui ressuscite, c'est Jésus qui obtient victoire sur le péché et sur le séjour des morts. Donc nous, lorsque nous parlons de la mort de Jésus, nous faisons une erreur si nous n'ajoutons pas, si nous ne parlons pas de surcroît à sa mort, de sa résurrection aussi. Et voilà pourquoi depuis déjà plusieurs mois, même notre vocabulaire a changé. Lorsqu'on prend conscience de cela, maintenant, on n'a plus le choix que de parler que de la mort et de la résurrection de Jésus. Si autrefois, on avait comme vocable simplement la mort de Jésus, et on parlait de la mort de Jésus, de la mort de Jésus, de la mort de Jésus, et ce qui est important, mais maintenant, on comprend que nous devons parler non seulement de la mort, mais aussi de la résurrection de Jésus. En tant que croyant, en tant que chrétien, la mort ne va pas sans la résurrection et la résurrection ne va pas sans la mort. Nous devons combiner ces deux éléments si on veut que l'évangile que nous prêchons soit totalement complet. Si on ne le fait pas, on ne prêche que la moitié de la grâce. On ne prêche que la moitié de la victoire de Jésus. En fait, sans la résurrection, je ne suis pas en train de proclamer la victoire, je suis en train de proclamer Jésus qui subit la condamnation. Le message complet doit inclure la résurrection de Jésus. Alors, Jésus est ressuscité et a démontré une fois pour toutes sa toute puissance sur toute chose. Et là, on va dire, il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Comme il l'avait dit. L'ange, lorsqu'il proclame ces choses-là à ses femmes, et lorsque l'Église va le proclamer par la suite, et lorsque nous mentionnons ces mêmes mots aujourd'hui, nous sommes en train de dire que les dires de Jésus étaient vrais. Non seulement les paroles de Jésus étaient véridiques, mais de surcroît à cela, ce qui avait été annoncé à propos de Jésus était véridique. Il avait été annoncé qu'il mourrait et qu'il ressusciterait. Jésus avait proclamé qu'on le mettrait à mort et qu'au troisième jour, il ressusciterait. Les disciples ont craint. Les disciples ont même oublié ses paroles. Les femmes qui se présentent au tombeau ont elles-mêmes omis la vérité que Jésus leur avait enseignée, que Jésus avait partagée. Il arrive parfois, effectivement, nous aussi, comme on l'a dit il y a quelques instants, qu'on omette de parler de la résurrection, qu'on omette ce fait si important. Mais lorsque l'ange va dire aux femmes, voici, il est ressuscité comme il l'avait dit, il est en train de dire les paroles qui sortaient de sa bouche se sont avérées véridiques, véritables. Est vrai. Ça veut donc dire que Jésus et ses promesses sont dignes de confiance. Ça veut dire que peu importe ce que Jésus a dit à notre propos, peu importe les choses qu'il a mentionnées à notre égard, ces choses sont véridiques, véritables, vraies. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, Jésus va le dire de lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. S'il n'avait pas accompli pleinement ce qu'il devait accomplir, il n'aurait assurément pas été le chemin, puisque le sacrifice aurait été incomplet. Il n'aurait assurément pas été la vérité, parce qu'il n'aurait pas pleinement accompli ce qu'il devait accomplir et accompli ce qu'il avait dit qu'il accomplirait. Et il ne serait assurément pas la vie, puisque la vie n'est accessible qu'à travers la mort et la résurrection de Jésus. Aujourd'hui, je peux croire à la vie éternelle, je peux croire au fait que Jésus dit qu'il est avec moi jusqu'à la fin du monde, je peux croire que Jésus me soutient et qu'il m'accompagne et qu'il me conduit et qu'il me dirige et qu'il me protège et qu'il est avec moi. Pourquoi? Parce qu'il est la vérité. Dans le moment capital où il devait attester qu'il était effectivement la vérité, Jésus a tenu promesse. Ses dires sont vrais. Ses paroles ne sont que « Amen ». Et « Amen » veut dire « Ainsi soit-il. Les choses ont été ainsi, soit-il, selon ce qu'il avait proclamé. Il avait dit, détruisez ce temple et dans 3 jours, je le rebâtirai. Et il parlait, en fait, de sa mise à mort. Et 3 jours plus tard, Jésus sortait victorieux du tombeau. Donc, Jésus et ses promesses sont dignes de confiance parce qu'il a fait ce qu'il disait qu'il ferait. Et notre Dieu, puisqu'il est vérité, fait encore aujourd'hui ce qu'il dit qu'il doit faire, ce qu'il dit qu'il va faire, ce qu'il dit qu'il fait. C'est dire son vrai, il est donc digne de toute ma confiance. Il est digne de tout mon abandon envers lui, sachant qu'il est toute la vérité. Et j'aime spécifier, Jésus n'a pas dit « je suis une vérité ». Jésus n'a pas dit « je suis vérité ». Jésus a dit « je suis le chemin », donc le seul chemin. « Je suis la vérité », donc la seule vérité. « Et je suis la vie », donc la seule vie éternelle pour nous tous. Il n'y en a pas deux. Allah, Confucius, Mohammed, Bouddha ou n'importe lequel des autres inventions, n'importe laquelle des autres inventions de l'imagination humaine et des mensonges du diable ne sont en fait que cela, des mensonges. La seule vérité, et lorsque je me dis chrétien, je dois donc abonder dans les propos que Jésus a tenus, il dit qu'il est la vérité. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre, il n'y en a pas 10, il n'y en a pas 100, il n'y en a pas au gré de chacun d'entre nous. Il est la vérité. Ce qu'il dit, il le fait, et je peux donc croire en lui. Et enfin, l'ange va dire, et on conclut sur cela ce matin, voyez le lieu où il était couché. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit, venez, voyez le lieu où il était couché. Non seulement ses dires sont vrais, mais ses dires sont accomplis. Non seulement il a proclamé et la chose devait être accomplie, mais Jésus l'a pleinement accompli. Jésus appelle ses enfants à expérimenter ses promesses et sa fidélité. Lorsque l'ange va dire aux femmes, allez regarder dans le tombeau, il n'est plus là. Il dit, expérimentez par vous-même, vous allez voir qu'il n'est plus là. Ça veut donc dire que Dieu a comme désir pour toi et pour moi, qui sommes ses enfants, qui sommes ses serviteurs, qui sommes ses disciples, à expérimenter ses promesses et sa fidélité. Il nous fait des promesses et on croit que ces promesses sont véridiques. On croit que ces promesses vont s'accomplir et Dieu veut que nous expérimentions l'accomplissement même de ces promesses. Et assurément, il y a certaines de ces promesses qui ne s'accomplissent pas dans le temps qui est le nôtre, qui ne s'accomplissent pas dans le moment présent où nous voudrions qu'elles s'accomplissent. Mais l'important, c'est qu'elles s'accomplissent. Voilà pourquoi le prophète va dire dans l'Ancien Testament, « Si la promesse tarde, attends-la, car elle s'accomplira. » Les promesses de Dieu ne sont jamais tombées à terre sans s'être accomplies. Elles s'accomplissent toujours. Peut-être pas dans le temps que je voudrais, peut-être pas dans le temps que j'espérerais, mais dans le temps parfait que Christ connaît et a établi. Ses dires s'accomplissent et il veut que nous expérimentions l'accomplissement de ses promesses, l'accomplissement, la manifestation de sa fidélité envers nous. Et il y a certaines promesses qui s'accomplissent ici-bas sur terre, d'autres qui s'accomplissent là-haut. Mais celles qui doivent s'accomplir ici-bas sur terre, il veut, il aspire à ce que tu puisses expérimenter sa grâce, sa bénédiction, la manifestation de sa promesse, la manifestation de sa puissance. Mais si tu ne crois pas à la base qu'il est ressuscité, tu ne peux pas croire au restant de ses promesses. Si tu ne crois pas qu'effectivement Jésus a accompli ce qu'il a dit qu'il allait accomplir, à ce moment-là, ta foi est débilitée ou ta foi est en mauvais état, ta foi est malade. La foi en Dieu, la foi en Christ implique que je crois qu'il est mort et qu'il est véridiquement, véritablement ressuscité des morts. La résurrection est à la base de la croyance chrétienne, est à la base de la foi chrétienne. Alors, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? On a parlé effectivement de la résurrection. On a parlé que cette résurrection, c'est pour manifester que Jésus a subi et porté totalement ce qu'il devait faire. Il n'y aurait pas de résurrection sans la mort de Jésus. Et Jésus a pleinement, totalement subi, connu la mort. Mais il est ressuscité. Donc, il a vaincu la mort et tout ce qui était rattaché à la mort. Voilà pourquoi, en sortant du tombeau, la Bible nous dit qu'il a pris les clés de la mort et du séjour des morts. Il est sorti vainqueur. Sa résurrection des morts atteste sa toute-puissance en tout temps, en toute occasion, en toute circonstance et face à toute adversité. Il a accompli ce qu'il a accompli comme il avait dit qu'il le ferait. Donc ses dires sont véridiques, ses dires sont la vérité. Donc Jésus et ses promesses sont dignes de confiance puisqu'il est la vérité. Et éventuellement, Jésus nous appelle à expérimenter effectivement l'accomplissement de ses promesses. Les dires de Dieu s'accomplissent. Jésus appelle ma sœur et mon frère ce matin à expérimenter sa toute puissance, sa toute grâce, sa toute passion à notre égard. Jésus t'aime. Il veut que ce ne soit non seulement une connaissance intellectuelle et spirituelle, mais il veut que tu l'expérimentes dans toutes les facettes de ton existence aujourd'hui. Alors je prie effectivement que cette parole que tu as crue, que cette parole que tu crois te permette d'expérimenter Christ dans sa toute-puissance et dans l'accomplissement de ses promesses à ton égard. Il est la vérité, il est le chemin et il est la vie. Merci Seigneur pour ce rappel important. Que sans la résurrection, le sacrifice est bancal. Le sacrifice est fait à moitié. L'acte salvateur est fait à moitié. Ça prenait ta mort et ta sortie du tombeau victorieux lors de ta résurrection. Et Seigneur, on ne peut pas croire à l'un ou à l'une sans croire à l'autre. On ne peut pas croire à ta mort pour le salut de l'humanité et croire que cette mort est effective et cette mort a fait ce qu'elle devait faire, à moins que tu ne sortes du tombeau vainqueur le troisième jour. Et oui, Seigneur, nous proclamons que tu es mort et que tu es ressuscité tel que tu l'avais dit. Et cela, ça nous rappelle que nous pouvons donc avoir confiance pleinement en toi. Tu fais ce que tu dis que tu vas faire. Tu accomplis dans le temps parfait qui est le tien les promesses que tu as faites. Alors merci Seigneur, de ce que tu n'es pas un homme pour mentir, tu es la vérité. Et merci Seigneur de ce que tu nous permets, même dans notre quotidien, un peu comme le prophète le disait dans l'Ancien Testament, voici ce que je veux ramener à mon esprit et qui me fera du bien. Les promesses de Dieu ne sont pas à leur terme. Ses bontés, ses bénédictions se renouvellent à chaque matin. Permets à ma sœur, permets à mon frère de rentrer dans cette parole, mais d'une façon palpable, tangible, où effectivement tes promesses se manifestent, se réalisent, se matérialisent dans la vie de ma sœur et de mon frère, afin que leur foi en sorte fortifiée, édifiée et rendue ferme pour résister aux mensonges du diable et de ses acolytes. J'appelle ta bénédiction sur ma sœur et sur mon frère et sur la journée que tu nous permets de débuter. Nous t'avons prié dans le glorieux, merveilleux, puissant nom de notre tout aussi puissant Seigneur Jésus. Amen. Alors voilà ce que nous avions pour ce matin. Ça met un terme à notre bénédiction pour aujourd'hui. On se retrouve ce soir avec le pasteur André pour le cours Fondement chrétien ou les croyances de base du chrétien. Et c'est à 19h sur toutes les plateformes Internet, YouTube, Zoom, site Internet de l'Église et Facebook. Donc on espère que vous serez nombreux pour vous réunir avec le pasteur André. Sinon, nous, on se réunit demain matin avec notre prochaine bénédiction matinale. Et là, effectivement, nous serons dans le verset 7 et le verset 8 qui donnent des recommandations aux femmes quant à ce qu'elles doivent accomplir. Et on voit la réponse que ces femmes vont donner aux recommandations qui leur ont été faites, Alors, sur ce, que Dieu vous bénisse. Bonne journée à tous. Au revoir tout le monde.